Suède, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier toutes les délégations pour leur contribution très intéressante au cours de la séance de ce matin. Permettez-moi tout d'abord de dire que notre position est que les SALA n'existent pas encore, mais nous sommes prêts à nous engager dans cette discussion. Hier, il était clair pendant la journée que le droit humanitaire international s'appliquait dans ce concept et que le contrôle significatif, approprié ou suffisant de l'être humain, quel que soit le terme que l'on souhaite utiliser, fait aussi l'objet du consensus. Personne ne s'est exprimé contre cela. Les divergences de vues portaient plutôt sur la façon de définir ce concept ou sur les frontières de ce concept. Et nous pensons que ce concept est un aspect clé pour la Suède. Et si ce genre de système devait être développé, nous pensons que le concept doit faire partie du processus de développement. Il faut tenir compte du processus d'examen juridique de l'article 36 dans la mise au point, le déploiement et l'utilisation des SALA. Le type d'examen qui serait nécessaire pour ces systèmes-là ne serait pas différent des contrôles existants, donc assurer la prévisibilité, la fiabilité, etc. Je ne vais pas me lancer dans la connexion avec le droit humanitaire international. Je pense que notre collègue de l'Estonie a fait un très bon exposé à ce sujet. Et nous sommes tout à fait d'accord avec cet exposé. Et il nous semblait aussi que l'intervention de la Nouvelle-Zélande était très utile et très intéressante. On parlait de dans la boucle ou de sur la boucle. Et en essence, la question est de savoir à quel moment, à quel endroit nous voulons que le contrôle humain soit présent. Est-ce qu'il s'agit de décider de la cible à attaquer ou alors est-ce qu'il s'agit de la phase de conception de développement? Et ceci dépendra vraiment du contexte et des systèmes d'armes. Nous sommes aussi tout à fait d'accord avec le concept de reddition de comptes. Les questions telles que la responsabilité de la hiérarchie, etc., sont tout à fait applicables dans ce contexte également. Et il faut assurer la responsabilité humaine en cas d'utilisation de ces systèmes. Et à présent, permettez-moi de réfléchir un peu à ce que certaines délégations ont mentionné. Donc les systèmes d'armes, les taux autonomes doivent être sous contrôle à tout moment. Ceci, bien sûr, dépend de la façon dont nous caractérisons ces systèmes ou de la façon dont nous les définissons. Mais si l'on parle de définitions qui circulaient dans la salle, nous avons des systèmes qui, selon ces définitions, pourraient être définis comme des systèmes d'armes létaux autonomes qui ne sont pas sous contrôle. Donc, ils sont sous contrôle lorsque vous les possédez, que vous leur donner fournissez les données nécessaires, mais une fois qu'ils sont lancés, vous n'avez plus le contrôle, comme par exemple les missiles. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique depuis de nombreuses années. Quelle en est la raison? Tout d'abord, c'est qu'il est difficile d'avoir une communication. Bon, si on remonte à une vingtaine d'années en arrière, il était difficile d'établir une communication avec la machine. Maintenant, c'est beaucoup plus faisable. Mais il y a une autre raison. Ce type de système est bien souvent d'une importance critique dans la planification de la défense nationale d'un État. Plus simplement, si vous préparez contre un conflit armé potentiel contre un adversaire qui dispose de technologies sophistiquées, si vous pouvez diriger le système d'armes, l'enclencher ou le débrancher, il est possible que l'adversaire ait cette capacité aussi. Cela peut passer par la communication, mais c'est un risque que vous prenez. Et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit lorsque l'on se demande quel est le type de communication nécessaire pour disposer du bon niveau de contrôle. Il y a aussi une autre raison pour laquelle l'aspect du maintien d'une communication d'un contrôle persistant du système représente un défi spécifique dans le contexte des SALA. Lorsque l'on examine le fonctionnement éventuel de ces SALA, s'ils venaient à être développés et déployés, cela se fera peut-être dans les zones où vos propres forces ne sont pas actives ou les zones sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et si vous n'avez pas des conditions prévoyant une communication constante entre le système et l'opérateur humain, alors bien sûr ceci augmente les possibilités de problèmes et le système ne pourra pas opérer. Donc il faut garder cela à l'esprit aussi. Permettez-moi de proposer un exemple hypothétique des systèmes qui n'a pas encore été développé, en tout cas d'après ce que je sais, mais dans lequel certainement la composante pour construire ce genre de système existe. Il s'agit du scénario maritime. Il s'agirait d'un navire sous-marin sans pilote qui aura un système de sonar et qui aurait un catalogue lui permettant d'identifier les navires ennemis et qui serait équipé d'une ogive. Le système de sonar identifierait les navires. Le catalogue serait bien sûr développé en temps de paix parce que la raison de l'utilisation des sous-marins en temps de paix est d'obtenir la signature acoustique des navires, spécifiquement des navires ennemis, et de stocker cette information. Donc si vous avez une combinaison de sonar, de catalogue et d'ogive, en essence, vous auriez une mine maritime sophistiquée qui permettrait de fermer une zone pour les navires ennemis. Et ce serait une pensée avec un coup d'avance par rapport au droit humanitaire international. Le droit humanitaire international prévoit la possibilité de mines maritimes, mais sans la possibilité d'identifier les navires. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un feedback, le système ne servira à rien parce qu'il serait détecté trop rapidement. Bon, ça, c'est l'exemple d'un système. Et il y a aussi les différents contextes dont on a parlé hier, la guerre terrestre, la guerre urbaine, où les contextes sont très différents. Et lorsque les possibilités de problèmes sont beaucoup plus élevées, les possibilités que l'on ne puisse faire la distinction entre un navire militaire et un navire civil. Et donc je pense qu'il faut garder à l'esprit ce type de questions lorsque nous parlons de ces questions. Et donc j'encouragerais vraiment les délégations à replacer les choses dans leur